Radio Pleine Lune 101.4, comme tous les mercredis, ce soir, les nouvelles de Radio Pleine Lune, la 199012e édition des nouvelles de la rédaction féministe et féminine de Radio Pleine Lune, RPL pour les intimes.
Ce soir, rue de Berne, les commerçants de l'hypocrisie. Nations Unies, les hommes stimulent la créativité des femmes. Insémination à la mode de Suède. Aux États-Unis, abat la tendresse. En France, haro sur le bisou. Les commerçants de la rue de Berne sont importunés par les prostituées. Ils n'admettent pas, disent-ils, leur agressivité, tant verbale que vestimentaire. Ils ont adressé une pétition au Conseil d'État qui leur répond que la situation à la rue de Berne ne s'est pas aggravée. Il n'y a pas plus de bagarres qu'auparavant. La seule différence, c'est que les prostituées sont aujourd'hui beaucoup plus visibles. La police a donc déjà reçu l'ordre d'exiger une tenue plus correcte des prostituées sur la voie publique, de leur intimer l'ordre de circuler lorsqu'elles stationnent devant les magasins et d'éviter les rassemblements bruyants. Aspasie rencontrera ce mois-ci les commerçants en colère. Le Grand Conseil, lui, examinera dans 2 semaines la pétition et le rapport gouvernemental, lequel envisage vaguement une multiplication des contrôles de police. Bien que ces vaches de bourgeois leur reprochent leur tenue, c'est bien à cause d'eux qu'elles les mettent, ces machins, avec lesquels elles risquent la pneumonie. C'est leur instrument de travail. Sans eux, elles risquent le chômage. Ce n'est pas elles qui ont inventé le fétichisme des mecs. Déclaration d'un horloger de la rue de Berne. Avant, elles achetaient dans le quartier et faisaient au moins marcher le commerce. Rue de Berne, les commerçants ont de l'hypocrisie à revendre. Pour marquer la fin de la décennie des Nations Unies pour la femme, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a décidé d'offrir une médaille et un diplôme à la meilleure femme inventeur pour stimuler la créativité féminine dans le cadre du 13e Salon international des inventeurs en avril. Avec cette médaille, on pourrait joindre un cuisinier et un valet de chambre pour donner aux femmes le temps d'inventer. Pourvu que cette médaille ne soit pas de moitié la taille de celle des hommes, et pourvu que les femmes inventeurs ne se cantonnent pas dans l'amélioration de leur batterie de cuisine.
Thank you.
En Suède, une nouvelle loi est entrée en vigueur le 1er janvier 1985 qui réglemente de façon très stricte le droit applicable en matière de naissance par insémination artificielle. Contrairement à la Suisse, l'enfant pourra demander à connaître son père biologique. Le souci de garantir à l'enfant un cadre familial le plus normal possible conduit les autorités à refuser dorénavant l'insémination artificielle aux femmes vivant de facto en célibataire. L'enfant doit avoir un père et une mère, dit la nouvelle loi, qui prescrit même qu'ils devront avoir entre 25 et 40 ans. Un jury de psychologues et d'assistants sociaux détermineront en outre si les candidats sont aptes à avoir ou non un enfant. Ces chérubins inséminés à la mode de Suède seraient donc mieux lotis que nous, nous conçus naturellement, avec un père naturellement absent. Un sondage récent révèle que 72% des femmes interrogées préfèrent la tendresse aux relations sexuelles. En revanche, 66% des hommes préfèrent les relations sexuelles aux sorties entre copains. Macho Jack, le Californien, a tout compris. Le problème des femmes insatisfaites, c'est que les hommes sont des mauviettes et ne les brusquent pas assez. En fait, elles adorent ça, dit-il. Pour eux, post penetras lux. Pour elles, adieu la tendresse, dévalorisée parce que réservée aux mauviettes, donc aux femmes. Au championnat de monde de ski à Bormio, sur le podium, les championnes donnent deux tendres bisous aux jurés qui leur passent la médaille au cou, alors que les champions, eux, se voient gratifiés d'une franche poignée de main virile. En France, l'Assemblée nationale ne veut plus de mauviettes. Elle a prié les députés de ne plus donner de baisers aux dames. L'administration a adressé verbalement ce rappel à l'ordre à certains membres du personnel féminin qui semblaient plus touchés par le virus du bisou.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire, fever, yea, I burn forsooth.
Fever, c'est génial, non? Et bientôt, bientôt, le mémento de Radio Pleine
Lune. Now you've listened to my story. Here's the point that I have made. Chicks were born to give you fever, be it Fahrenheit or centigrade. They give you fever when you kiss them. Fever, if you live, you learn. Fever till you sizzle. Oh, what a lovely way to burn.
Après Fever de Peggy Lee, le mémento de Radio Pleine Lune, comme promis. Toujours à l'écoute de Radio Pleine Lune, 101.4 MHz, c'est le mémento. Quelques informations détaillées sur les activités du Centre Femmes. On va procéder jour par jour. Le lundi, vous avez la réunion du collectif de gestion dès 19h30. Le mardi, vous avez le cours d'attaque de 18h à 20h. Qu'est-ce que c'est le cours d'attaque? C'est un mélange de techniques d'attaque de plusieurs arts martiaux. On travaille l'équilibre, l'offensive et tout ça. Le premier et le troisième mardi du mois, dès 20h30, vous avez les cours de danse. Et le dernier mardi du mois, toujours dès 20h30, vous avez le groupe des English Speaking Feminists qui se réunit. Le mercredi, vous avez l'atelier de travail corporel de psychomotricité, donc de 18h30 à 20h30. La psychomotricité, c'est un travail sur le corps, c'est une connaissance de soi en termes énergétiques et psychiques. Vous travaillerez l'axe, la marche, le potentiel d'énergie et la relaxation. Le jeudi, vous avez une restauration de 19h à 22h. On vous sert à manger jusqu'à 22h et on ferme à 23h30. Le vendredi, n'oubliez pas, vous avez le bistrot de 20h à 23h30. Le troisième vendredi du mois, dès 20h, il y a le groupe Vanifraise, le groupe de lesbiennes politiques qui se réunit. Et le premier samedi du mois, vous avez le bal des chattes sauvages. Le centre de loisirs des Astères vous propose plusieurs activités. Par exemple, le lundi 11 février de 9h à 11h, vous apprendrez à faire de la petite menuiserie. Le vendredi 8 février de 14h à 16h, vous saurez comment il faut se soigner avec l'argile. Le lundi 11 février de 14h à 16h, vous aurez des cours de maquillage avec une esthéticienne pour vous donner des conseils. Le lundi 25 février, de 14h à 16h, vous pourrez tout savoir sur la petite cordonnerie, ainsi que le vendredi 8 mars, de 9h à 11h, vous saurez comment réparer vos talons souliers. Le béaba de l'électricité, par contre, se déroulera le vendredi 15 février de 14h à 16h et le lundi 4 mars de 14h à 16h. Bricolons avec nos enfants, vous fabriquerez de petits objets tout simples le mercredi 27 février de 9h à 11h. Quant à l'ikebana, qui est l'art japonais de l'arrangement floral, ça se déroulera le mardi 5 mars de 9h à 11h. Et puis, le vendredi 1er mars de 14h à 16h, excusez-moi, il y a la régie qui me fait rire, vous saurez comment couper les cheveux en quatre, donc, à vos enfants. Thank you. Vous avez aussi le deuxième grand concours de photos de femmes qui est proposé par l'École de photo créative de Lausanne. Et le thème cette année, c'est Rêves de femmes. Le délai pour envoyer vos chefs-d'œuvre est le 28 février. C'est un concours qui est ouvert à tous les amateurs ou pros de la photo, de sexe féminin bien entendu. On vous donne l'adresse, c'est l'École de photo créative de Lausanne, avenue de Morges 64, 1004 Lausanne. Pour plus de renseignements, vous pouvez toujours téléphoner à Radio Pleine Lune. Ce soir, le festival de femmes lesbiennes et gays à Bienne, qui se déroulera du 20 février au 10 mars. Vous aurez la projection de plusieurs films, on va vous en nommer quelques-uns. Un autre regard de Carolie Marc, Liana de John Sayles, La Triche, une pièce sur Tina Modotti, Streamers et Come Back to the Five and Dime, Jimmy Dean, les deux derniers par Robert Altman. Vous aurez encore Les Rendez-vous Nana de Chantal Akerman, Stranger Than Paradise, etc., etc. Vous pourrez trouver les programmes de ce festival au Centre Femmes et sinon téléphonez toujours à Radio Pleine Lune. Dans le cadre du Festival de films de Bienne, vous aurez une fête le samedi 2 mars au Théâtre de Poche.
Le Memento de Radio Pleine Lune, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Thank you. Eh ben pardon, c'est pas fini du tout. Le mémento de Radio Pleine Lune, ça continue.
Et oui, ça continue le mémento. On va vous donner les adresses clés sur Genève. Vous avez l'Aspasie, qui est le centre d'information pour les femmes prostituées, qui se trouve à la rue de Neuchâtel, au numéro 16. Vous avez un numéro de téléphone, le 32 68 28. Ensuite, le dispensaire des femmes, à la rue du Môle, numéro 4. Encore un numéro de téléphone, le 32 91 14. Et puis, le groupe de solidarité de femmes en détresse, une permanence téléphonique, le 97 10 10. Et en ce qui concerne le centre femmes boulevard Saint-Georges, qui cherche toujours des collaborations diverses et immédiates, c'est le 5 boulevard Saint-Georges, donc au 29 22 98.
Aïe, 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 cette fois-ci, c'est fini, le mémento de Radio Pleine Lune. Et qu'est-ce qu'on vous donne à la place du mémento? On vous donne du tango. Et puis, vous savez quoi? Sur Radio Pleine Lune, comme chaque semaine, vous avez droit à la critique cinématographique la plus sexy de la radio. C'est la chronique cinématographique d'Éponine Azelma. Cette semaine, Éponine a vu « Dernier combat » de Luc Besson. Luc Besson, c'est ce réalisateur prodige dont on parle beaucoup ces temps-ci en France, le nouveau nom du cinéma français. Il est jeune et il n'a eu qu'à faire un premier long métrage en 1982 pour que les propositions et les bonnes affaires pleuvent pour lui. Son premier long métrage s'appelait « Dernier combat ». C'est le film dont je vais vous parler aujourd'hui. Il l'a fait, dit-on, avec quelques bouts de ficelle. Au premier jour de tournage, Luc Besson avait 2000 francs français en poche. Quand on connaît les coûts de production d'un long métrage 35 mm, on se dit que Luc Besson a eu beaucoup de chance. Car le film a remporté une charrette de prix à Avoriaz et ailleurs, ce qui a permis à son jeune réalisateur de commencer une carrière fulgurante. C'est lui qui a fait le clip vidéo avec Isabelle Adjani, vous savez, le petit pull marine, au fond de la piscine, avec la sardine. Il termine un long métrage en ce moment, intitulé Subway, avec la même Adjani et Christophe Lambert, alias Tarzan, Greystock. Et il prépare un troisième long métrage pour très très bientôt. Et tout ça grâce à quoi ? Grâce à Dernier combat, ce film tourné il y a 2 ans avec les moyens du bord. Et les bouts de ficelle dont j'ai parlé. J'ai vu ce film et je ne l'ai pas aimé. Mais je comprends bien cependant pourquoi l'on a pu offrir des ponts d'or à Luc Besson après Dernier combat. Il y a là-dedans un sens de l'image très certain et un véritable génie à tirer parti de la pénurie des conditions de tournage. Comme il s'agit d'une fin du monde, les décors de ce film, on s'en doute, n'ont rien ni de coûteux ni de sophistiqué. Luc Besson n'a eu qu'à porter sa caméra dans les décombres d'un quartier en ruine et le tour était joué. Plus le cadre était délabré, mieux c'était. Plus les costumes étaient de guingois, de briques et de broc, plus il y avait de cohérence interne dans cette histoire d'apocalypse. Le trait de génie de Luc Besson, c'est d'avoir, premièrement, tourné en noir-blanc pour faire étrange, dit-il. Deuxièmement, éliminé tout dialogue, car les cordes vocales ont été dissoutes lors de la catastrophe, explique-t-il. En vérité, ces 2 tours de passe-passe permettent à Luc Besson une économie non négligeable au niveau de l'image et au niveau du son. En outre, le truc des cordes vocales, les cordes vocales détruites, rajoute une bonne épaisseur thématique à ce film qui aurait pu paraître mince à cet égard, sans cela. Car enfin, qu'y a-t-il de bien différent entre le thème de Mad Max, par exemple, et celui du Dernier combat ? Si ce n'est que Mad Max, regorgé de moyens financiers, et Dernier combat est né dans l'indigence, comme on sait. Sinon, il s'agit de la même chose, ou presque. Jusqu'au héros. Ce héros franc-tireur, solitaire, astucieux, que l'on retrouve dans Dernier combat. Mais ce nouveau Mad Max ressemble plutôt à Maxime le Forestier. Ce n'est pas Mad Max, c'est Mad Maxime le Forestier. Il s'est bricolé une sorte de machine volante, exactement comme l'acolyte de Mad Max dans le film du même nom. Et il se bat avec les tristes et barbares restes d'humanité, exactement comme dans Mad Max. Seulement, dans Mad Max, c'est pour de l'essence, de la benzine qu'on se bat. Dans Dernier combat, au contraire, on se bat pour quelque chose d'autre. Quoi ? Je vous le donne en 1000, pour quelle denrée devenue rarissime les hommes, car il n'y a pratiquement que des mâles dans ce film. Pour quelle denrée devenue rarissime se battent-ils comme des loups, les hommes ? Allez, un petit effort. Dans Dernier combat, on s'entretue pour les fumelles, farpètement.
Il semble qu'elles aient beaucoup moins bien supporté la catastrophe que leurs collègues masculins, les femelles. Alors il n'en reste qu'une ou deux que ces messieurs séquestrent à triple tour dans des bunkers hyper secrets, car c'est, vous m'entendez, le bien le plus précieux de cette horrible fin du monde. Les femmes sont une chose, une denrée que l'on ferme à double tour. Alors elles sont là, tapies comme des patates dans un sous-sol. On leur glisse leur choucroute par des fentes, et comme l'homme au masque de fer, elles ne voient jamais le jour. Tout ça pourquoi ? Parce que les hommes, qui s'entretuent pour les posséder, ces recluses, ne trouvent rien de mieux à faire, une fois qu'ils ont assassiné tous leurs adversaires et qu'ils s'emparent de leur butin, ils ne trouvent rien de mieux à faire que de le violer jusqu'à ce que mort s'en suive, leur butin. Quel gâchis, n'est-ce pas ? De la bonne marchandise de fin du monde gâchée, et tellement rare en plus, cette marchandise. Le scénario de ce film a été écrit conjointement par Luc Besson lui-même et son acteur Luc Jolivet, ou Marc Jolivet, je ne sais pas exactement, enfin c'est un Jolivet, celui qui ressemble à Maxime Le Forestier. Je félicite ces deux messieurs pour l'extraordinaire racornissement de leur imaginaire. Retournés à ces instincts primitifs, l'humanité, c'est-à-dire les hommes, comme on sait, ne trouvera jamais d'occupation plus civilisatrice, plus salvatrice, que le marché des femmes. Rajoutez-y le tabou de l'inceste et le duo Luc Besson-Jolivet pourra aller payer des prunes à Claude Lévi-Strauss. Non, vraiment, je trouve petit et racorni, triste et sanguinaire ces fantasmes masculins de fin du monde. Sauf quelques trouvailles, comme la pluie miraculeuse de Poissons du ciel et le jeu de Jean Bouise. Ce film d'Apocalypse, Le dernier combat de Luc Besson, est tristement reproducteur. Les imaginaires sont en péril, qu'on se le dise. C'était la chronique cinéphilique hebdomadaire d'Éponine Azelma.
She knew exactly what to do. A pseudonym to fool him. She couldn't have made a worse move. She sent him scented letters, and he received them with a strange delight. Just like his wife, but how she was before the tears, and how she was before the years flew by. She was when she was beautiful. She signed the letter.
Alors, ce soir, sur Radio Pleine Lune, un feuilleton. Un feuilleton, quel feuilleton ? Un feuilleton de science-fiction. Souvenez-vous, c'était avant Noël et Radio Pleine Lune vous avait raconté un feuilleton redoutable. Deux épisodes remarquablement diaboliques concernant une consternante apocalypse. Ça se passait après, très exactement, trois jours après, la fin du monde. D'ailleurs, il n'y a pas de mystère, le premier épisode s'appelait « Trois jours après », le deuxième « Quatre jours après » et le troisième que vous allez entendre si vous êtes sage dans moins de 5 minutes. Le troisième s'intitule « Cinq jours plus tard ». Je m'en vais vous résumer les deux premiers tomes de cette pitoyable saga. Résumé. Alors il y eut une fin du monde, une horrible fin du monde. Les morts y pullulaient. Heureusement, en réchappèrent Josette, anciennement bouchère, et Fernando, anciennement je ne sais quoi. Ces deux-là se rencontrèrent à l'occasion de cette fin du monde. Tout de suite, ils eurent à affronter des dangers insolites. D'odieux mutants, appelés les vermipèdes, affligés d'affreux vers symbiotiques qui gigotent au creux de leurs oreilles. D'odieux mutants anthropophages ont conçu le projet, l'infâme projet de les dévorer. Par bonheur, Josette et Fernando sauvent habilement leur vie à la dernière minute en démontrant aux vermipèdes qu'ils ont également muté et qu'ils possèdent leur propre ver d'oreille. Ensuite, ils s'enfuient. Et dans leur fuite, ils rencontrent Toshiro Mifune. Toshiro Mifune, l'acteur japonais qui semble avoir un tantinet perdu la boule. Toshiro Mifune, bon bougre au demeurant, n'en devient pas moins leur ami. Il leur apprend que d'autres survivants subsistent quelque part dans les lointains dévastés. Les dénommés le roi, que lui-même, Toshiro, ne semble pas porter dans son cœur, mais auquel il veut bien les conduire. Qui sont les mystérieux, le roi? Et pourquoi Toshiro ne les aime-t-il pas? Nous allons le savoir tout à l'heure.
Thank you.